RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les Pays-Bas sont prêts à donner des contributions à l'Indonésie pour la restauration de bâtiments anciens. L'Indonésie est prête à faire face aux politiques de l'Union européenne liées à l'huile de palme. Le gouverneur Anis rencontre le maire de Turquie pour apprendre la gestion de l'eau. La réunion plénière du FMI et de la Banque mondiale, les danses balinaises ont été représentées aux États-Unis. L'Indonésie et le Japon intensifient la coopération en matière d'infrastructure. Selon le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Facebook provoque le racisme dans un certain nombre de pays. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les relations entre l'Indonésie et les Pays-Bas n'ont jamais été détachées de liens historiques. À l'époque coloniale, les Hollandais ont laissé de nombreuses reliques, entre autres des bâtiments, dont certaines sont encore utilisées par des organismes gouvernementaux ou utilisées comme musées. Mais il y a aussi quelques vieux bâtiments qui ne sont pas entretenus. De nombreux bâtiments sont déjà obsolètes. En relation avec la gestion des vieux bâtiments historiques dans ce pays, le conseiller économique de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, Sibes Khur, a déclaré à la voix de l'Indonésie à Jakarta récemment que la restauration de l'ancien bâtiment était la responsabilité de la nation indonésienne. En termes d'héritage, à notre avis, c'est la responsabilité de l'Indonésie. Si quelqu'un pense que nous participons encore à la restauration de bâtiments anciens comme Bandung, Semarang, Kota Tua ou même Malang, ce n'est pas vrai. Selon Sibes Khur, les Néerlandais sont prêts si l'Indonésie a besoin d'eux en tant que conseillers qui peuvent donner des instructions pour la restauration des vieux bâtiments, conformément à l'expérience néerlandaise dans la gestion des bâtiments anciens aux Pays-Bas. L'Indonésie est prête à faire face au plan de l'Union européenne pour la suppression progressive des biocarburants à base de l'huile de palme. Il a été dit par le chef de l'Agence pour l'examen et le développement des politiques du ministère des Affaires étrangères, M. Siswo Pramono, en mars de sa visite à PT Inti Indosawit Subur, l'unité d'affaires ASEAN Agri à Jambi, avec plusieurs ambassadeurs des pays européens récemment. Dans sa conférence de presse à Jakarta dimanche, M. Siswo Pramono a expliqué qu'il y avait quelques efforts qui étaient faits par l'Indonésie liés au plan de l'Union européenne, entre autres la création du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme pour créer une position commune des producteurs de l'huile de palme. plusieurs entre efforts qui sont faits par le gouvernement indonésien est de trouver de nouveaux marchés, augmenter l'absorption de la consommation intérieure et gérer les marchés existants. Il a affirmé que l'huile de palme est le principal produit d'exportation de l'Indonésie. Ses principaux marchés sont l'Inde, la Chine et le Pakistan. Le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, s'est entretenu avec le maire d'Istanbul, Mevlut Uysal, à Istanbul en Turquie, vendredi, pour discuter des problèmes de transportation de minibus, l'essence culturelle et la restructuration des eaux, outre l'évaluation de la coopération et la signature du procès verbal d'accord entre Istanbul et Jakarta. Mevlut a déclaré qu'il y avait trois choses à noter dans la gestion du tourisme culturel. D'abord, l'accès aux lieux culturels, les conforts de résidence et le troisième, la commodité du transport. Il a ajouté que le gouvernement d'Istanbul était prêt à fournir des connaissances sur la restructuration des sociétés des eaux et d'autres questions techniques à étudier avec Jakarta. Cependant, Anies Baswedan a déclaré que Jakarta voulait en savoir plus sur le moyen de transport de minibus, les gestions culturelles et formerait une équipe de restructuration des eaux qui apprendrait directement l'expérience d'Istanbul. Jakarta enverra une équipe qui en apprendra directement sur le moyen de transport. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Banque d'Indonésie présente les danses balinaises, à savoir Kembang Girang et Merak Angelo, à la réunion de printemps ou la réunion préliminaire sur le printemps du comité commun du Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux États-Unis du 16 au 22 avril 2018. Le chef du représentant de la Banque d'Indonésie en province de Bali, Kausa Imam Karana à Denpasar Bali Dimas, a déclaré que cette art était de montrer la richesse culturelle indonésienne, notamment Bali, dans le monde. Kausa est actuellement à Washington DC, les États-Unis, pour assister à la réunion, a admis qu'il a apporté spécialement des danseurs de l'île de Bali, y compris les employés de la Banque centrale et leurs représentants de Bali, à savoir Niputu Karniawati, a dansé sur la scène de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En plus de danse, la flûtiste célèbre de l'île, à savoir Gusteja, joue bien la flûte qui est abrissante des délégués du monde entier. Une autre réunion aura lieu à Nusa Dua, Bali, intitulée Réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, avec une honneur principale, aura lieu du 12 au 14 octobre 2018. La coopération entre l'Indonésie et le Japon dans le secteur des infrastructures se déroulait depuis longtemps. Dans le cadre du 60e anniversaire de la coopération entre les deux pays, le ministre des Travaux publics et du Logement public, M. Basuki Hadimulyono, et le ministre de la Planification et du Développement national, en tant également le chef de l'Agence de la Planification et du Développement national, M. Bambang Brojonegoro, représente le vice-président Yusuf Kalla, ont assisté au symposium de la commémoration de 60e des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon à Tokyo samedi, accompagné l'envoyé spécial du président pour le Japon, Rahmat Gobel, le président de l'équipe d'experts du vice-président Yusuf Fanandi et le directeur général de Cipta Karya, Sri Hartoyo. Dans son discours, le ministre Basuki a transmis divers progrès réalisés par l'Indonésie pour améliorer la compétitivité, l'un d'entre eux est par le développement des infrastructures. Il a également expliqué les opportunités de coopération dans certains nombres de projets de développement d'infrastructures dans ce pays, entre autres les autoroutes, le système de l'approvisionnement en eau potable, de région de Maminasata, c'est-à-dire Makassar, Maros, Sungguh Minasa et Takalar, le développement d'infrastructures de l'établissement rural et infrastructures en cas de catastrophe des montagnes de Sinabung, de Semeru, de Kelut, Lokon et Gamalama. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Rudiantara, a déclaré que Facebook a pris part à la crise des Rohingyas et au Sri Lanka. Cela a été dit par le ministre après avoir été affecté par la fuite d'un des comptes d'utilisateurs Facebook. Il a déclaré aux journalistes indonésiens au Washington DC en Amérique dimanche que cette information soumise par le Facebook. Par conséquent, l'Indonésie doit être vigilante. Actuellement, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information est en train d'évaluer la présence de Facebook en Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Compétences en pensée supérieure ou HOTS compliquent les participants de l'examen national de l'école secondaire ». La mise en œuvre de l'examen national de l'école secondaire est faite simultanément aujourd'hui, le 23 avril jusqu'au 26 avril dans toute l'Indonésie, avec le nombre de participants près de 4,3 millions de personnes. La plupart des participants, 63%, participent à l'examen national basé sur l'ordinateur, tandis que les autres participent à l'examen national crayon de papier ou UNKP. Selon le règlement du ministre de l'Éducation et de la Culture numéro 57 l'année 2015 concernant l'examen national et l'examen de l'école, la mesure de la réussite des diplômés sur certaines matières à l'échelle nationale en se référant aux normes de compétences des diplômés, interrogés sur l'utilisation des questions d'examen avec un niveau de difficulté élevé, ou modèle HOTS ou compétences en pensée supérieure dans l'examen national de l'école secondaire, le chef de l'Agence des normes de l'éducation nationale ou BSNP, M. Bambang Suryadi, a déclaré « Est devenu la politique du ministère de l'Éducation et de la Culture à présenter une évaluation modèle HOTS qui vise à former des capacités de réflexion critique, d'analyse et créativité chez les élèves, afin que les élèves n'apprennent pas seulement avec des modèles de mémorisation. Ceci est en accord avec l'un des objectifs du programme d'études 2013 qui inclut des compétences de pensée critique, créative et analytique. » Selon le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, à Jakarta dimanche, il y a encore les matières d'examen HOTS, environ 10 jusqu'à 15% du montant total de la matière et de niveau de difficulté adapté à la capacité des élèves des écoles secondaires. Pourquoi des matières de HOTS est-il impressionné que cela sera difficile pour les étudiants? Selon M. Heri Purnomo, le secrétaire général de la Fédération Unie des enseignants nationaux, n'est pas tous les enseignants à appliquer HOTS dans l'apprentissage à l'école. L'approche HOTS est généralement liée au programme en 2013. Les polémiques de l'examen national de niveau lycée restent une préoccupation, notamment pour les étudiants de l'école secondaire, où aujourd'hui, jusqu'aux 4 jours dans l'avenir, effectuent l'examen national. En fait, des questions de tout modèle dans l'examen national ne seront pas considérées difficiles si les étudiants ont bien étudié et préparé au maximum pour l'examen, et le soutien des parents, des enseignants sont très importants pour atteindre la fin de l'examen final. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 23 avril. Le 23 avril 2007, Boris Yeltsin, le premier président russe, est décédé. Boris Nikolaïevitch Yeltsin est le président de la Fédération de Russie, servi en 1991 à 1999. L'ère de Yeltsin est une période dramatique dans l'histoire de la Russie, une période marquée par le changement politique révolutionnaire, la démocratie et les grands problèmes politiques, économiques et sociaux, dont la corruption rampante est ouverte. En juin 1991, Yeltsin monta sur le trône avec une vague de grands espoirs de réformes politiques et de déceptions face à la domination communiste. Le 12 juin, Yeltsin a été élu président de la République socialiste soviétique de Russie, formant une fédération avec 57% des voix, devenant le premier président élu directement dans l'histoire de la Russie. En août 1991, Yeltsin a reçu des éloges internationaux pour son courage en tant que démocrate capable de contrer la tentative de putsch de communistes pour être dur. En son temps, il a coupé le budget du gouvernement à grande échelle dans le but d'équilibrer les revenus de l'État et de dépenser et d'emprunter des fonds des pays occidentaux. Mais la Russie a connu une grande crise économique en 1998, jugée plus sévère que la Grande Dépression aux pays européens et américains dans les années 1930. Il a démissionné de son poste de président le 31 décembre 1999. Il a été remplacé par Vladimir Putin. Boris Nikolaïevitch Yeltsin est décédé le 23 avril 2007 en raison d'une insuffisance cardiaque. Le 23 avril est célébrée Journée mondiale du livre. La Journée mondiale du livre, également connue sous le nom de Journée mondiale du livre et du droit d'auteur et Journée internationale du livre, est une célébration annuelle organisée par l'UNESCO pour promouvoir le rôle de la lecture, de l'édition et du droit d'auteur. La Journée mondiale du livre a été célébrée le 23 avril 1995. La relation entre le 23 avril et le premier livre a été créée par une libraire en Catalogne, en Espagne, en 1923. L'idée est venue de l'écrivain valencien Vincent Sclavel André pour apprécier l'écrivain Miguel de Cervantes qui est mort à cette date. En 1995, l'UNESCO a décidé de célébrer la Journée mondiale du livre et la Journée mondiale du droit d'auteur le 23 avril, car cette date marque également le décès de William Shakespeare et d'Inca Garcilaso de la Vega, ainsi que la naissance ou la mort de plusieurs autres auteurs célèbres. Le 23 avril 1987, la cinquième élection a eu lieu en Indonésie. Les élections générales du Parlement et du Parlement régional de 1987 ont eu lieu simultanément le 23 avril 1987 pour élire les membres du Parlement, DPR, et les membres du Parlement régional, DPRD, provincial et DPRD de régence pour la période de 1987 à 1992. L'élection générale a été suivie par deux partis politiques, à savoir Parti du Développement Uni et Parti démocratique d'Indonésie, et Golongan Karya, soit le groupe de travail. le gagnant de la majorité des résultats de cette élection est le groupe de travail. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et la Chine encouragent la zone industrielle hors de Java ». L'Indonésie et la Chine continuent de renforcer leur coopération économique globale. De plus, les deux pays ont convenu de développer un certain nombre de projets de développement immobilier de la zone industrielle hors de Java qui s'est reflété dans le programme One Belt, One Road ou OBOR. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, après une rencontre avec l'ambassadeur de Chine en Indonésie, Xiao Qian, à Jakarta mercredi, a dit qu'ils ont discuté du développement de la coopération entre l'Indonésie et la Chine, en particulier dans le secteur industriel, qui était en cours d'exécution. Il est également lié au projet de Belt and Road Initiative. Airlangga Hartarto a dit les deux parties travailleraient ensemble dans le développement des zones industrielles au nord de Sumatra, de Kalimantan et de Sulawesi. Ce potentiel d'investissement est conforme aux efforts déployés par le gouvernement indonésien pour développer des zones industrielles hors de Java. Il a dit qu'il encourageait l'accélération du développement parce qu'il apporte un double effet à l'économie nationale. Il a expliqué, dans le nord de Sumatra, les investisseurs chinois ont le potentiel d'investir pour la construction de Kuala Tanjung Hub International Port and Industrial Estate. En outre, le développement de la zone économique spéciale de Seimangke. Le ministre Hartarto a également dit, pour la région du nord de Kalimantan, les projets proposés sont le développement des zones industrielles de clusters de fonderies d'alumine et d'aluminium. Il y a aussi une zone industrielle et un port international de tanah kuning. Tandis que dans le nord de Sulawesi, il y a aussi des opportunités pour le développement de la zone industrielle et du port international de Bitung. Cette coopération est la réalisation d'une rencontre bilatérale entre le président Joko Widodo avec le président chinois Xi Jinping liée à l'augmentation de la coopération économique entre l'Indonésie et la Chine dans le forum de Singtour et de la route pour la coopération internationale à Pékin en Chine en mai 2017. Le suivi sera discuté dans la visite du premier ministre en Chine, Li Keqiang, en Indonésie en mai et la visite du président Joko Widodo en Chine. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, voici donc le rappel de titre de l'actualité.
Les Pays-Bas sont prêts à donner des contributions à l'Indonésie pour la restauration de bâtiments anciens. L'Indonésie est prête à faire face aux politiques de l'Union européenne liées à l'huile de palme. Le gouverneur Anis rencontre le maire de Turquie pour apprendre la gestion de l'eau. La réunion plénière du FMI et de la Banque mondiale, les danses balinaises ont été représentées aux États-Unis. L'Indonésie et le Japon intensifient la coopération en matière d'infrastructure. Selon le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Facebook provoque le racisme dans un certain nombre de pays.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité. d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est un moment pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons Mitoni de Yogyakarta. Restez à l'écoute. Les Javanais, en particulier Yogyakarta, ont divers types de cérémonies traditionnelles qui sont encore menées jusqu'à présent. L'une d'elles est Mitoni, qui est menée lorsque l'âge de grossesse des femmes qui sont enceintes pour la première fois est 7 mois. Chers auditeurs, dans la tradition des gens de Yogyakarta, que ce soit des gens ordinaires ou de la famille royale, Mitoni est le rituel le plus important parmi d'autres rituels traditionnels. Si ce rituel est ignoré, les gens croient que la mauvaise chose va arriver à la mère et à l'enfant à naître. Selon la tradition, Mitoni peut être fait les 7, 17 et 27 avant la pleine lune sur le calendrier Javani. Le rituel se déroule à gauche et à droite de la maison face au lever du soleil. La cérémonie Mitoni ne peut pas être mise en œuvre arbitrairement, mais il existe des moyens et des séquences pour la mettre en œuvre. Commençant par éclabousseur, l'éclaboussement est effectué par sept parents les plus proches dans le but de demander la sécurité des bébés dans l'utérus de la mère. L'eau qui est utilisée provient de cette source en étant logée dans un seau en laiton. Ensuite, l'eau est mélangée avec différentes sortes de fleurs telles que la rose, le jasmin, le cantil et le kenanga. Il est contenu avec brojolan. Brojolan est habituellement déguisé par la mère de la femme enceinte. La femme enceinte portera des vêtements appelés jari qui est tordu avec une corde appelée letrek. Letrek est un fil rouge, blanc et noir. Ensuite, la mère de la femme enceinte fait entrer trois ponts ou un œuf de poule dans le vêtement et la laisse tomber dans le but que l'accouchement se déroule bien. On continue en perçant deux noix de coco qui sont décrites une paire de figures de wayang avec bel et beau visage, avec l'espoir d'enfant qui naîtra ayant beau ou belle. Ainsi, la cérémonie Mitoni se poursuit avec la procession Angreman qui chante la chanson signifiant l'amour d'une mère et d'un père à leur bébé. La femme enceinte sera guidée dans une autre pièce pour changer de vêtements avec sept vêtements différents. Le dernier est de Dolorujak, la procession où la femme enceinte fera une salade de fruits accompagnée de son mari et les invités l'achèteront avec Kroeng comme devise. Il vise à ce que l'enfant ait de la chance et soit capable de soutenir aux besoins de sa famille. Fondamentalement, la cérémonie est une expression de gratitude au Dieu pour la sécurité et la tranquillité, et il est exprimé dans les symboles qui ont une signification propre. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Mitoni de Yogyakarta. Demain, nous nous rencontrons avec le sujet plus intéressant. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Memperkenal orang lain ou en langue française, introduire les autres. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Memperkenalkan orang lain ou en langue française, introduire les autres.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pembantu wisata di sini. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et les phrases reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir memperkenalkan orang lain ou en langue française, introduire les autres. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pemandu wisata. Pemandu wisata. En français, guide touristique. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. En français, introduisez, c'est Mbak Nina, la guide touristique ici. Ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. En français, c'est Joko mon ami. Teman saya. Teman saya. En français, mon ami. Pour introduire l'autre personne, vous pouvez simplement dire Joko, kenalkan ini Mbak Nina. Joko, kenalkan ini Mbak Nina. En français, Joko, introduisez, c'est Mbak Nina. Mbak Nina, ini Joko. Mbak Nina, ini Joko. En français, Mbak Nina, c'est Joko. L'autre exemple, Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. En français, Joko, introduisez, c'est Mbak Nina, la guide touristique ici. Mbak Nina, ini Joko teman saya. Mbak Nina, ini Joko teman saya. En français, Mbak Nina, c'est Joko mon ami. Ensuite, la personne introduite mentionnera habituellement son nom en se serrant la main. Exemple, kenalkan, ini Heru. Kenalkan, ini Heru. En français, introduisez, c'est Heru. Heru, ini Sinta. Heru, ini Sinta. En français, Heru, c'est Sinta. Ensuite, Heru dit, Heru. Heru. Et Sinta dit, Sinta. Sinta. Quand s'introduire, les Indonésiens disent, le mot Mbak dans cette conversation est utilisé pour saluer les femmes, en particulier à l'île Java qui est relativement jeune. Pour saluer les femmes plus âgées, on utilise généralement le mot Ibu ou le mot Bapa pour les hommes. Pour saluer un jeune homme, vous pouvez l'appeler Mas. Vous pouvez ajouter le nom après le mot Mbak ou Mas, comme Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Tony et Mas Andi. Serviteur, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de conversation encore une fois.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pembantu wisata di sini. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Sekzami, C'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal indonésien à notre adresse email avoy@voynews.id. Il y aura un prix attrayant pour les expéditeurs sélectionnés. L'exercice consiste à dire bonjour, votre nom, votre pays et vos aliments préférés. Exemple: Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter les chansons de Kroncong indonésiennes. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, que vous pouvez écouter par la diffusion en direct à Indonesia, indonesia.rri.world.service.rri.world.se.com ou par l'application de RRI Play sur votre smartphone. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson de Kroncong intitulée Melati di Tapal Batas, chantée par Safitri. Thank you. La chanson intitulée Melati di Tapal Batas est une chanson dont le thème est la lutte, créée par Ismail Marzuki, un compositeur de musique talentueux indonésien à l'ère de la lutte pour l'indépendance indonésienne. Cette chanson est toujours agréable et inspire toujours un sentiment de patriotisme et de nationalisme. Elle est l'une des chansons nationales obligatoires de l'Indonésie. Cette chanson est chantée par Nur Agni Savitri, ou mieux connue comme Savitri, dans la musique de Kroncong qui est moderne. Savitri chante des chansons de Kroncong accompagnées par les instruments de musique comme des ukulélés, des flûtes et des violons. Alors, écoutons une chanson de Kroncong appelée Sabda Alam. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson intitulée Sabda Alam de Savitri. Savitri a commencé sa carrière dans le monde de la musique quand elle était au collège. Son nom a commencé à être connu à Semarang, Java Central. Il a suivi l'événement de Bintang Radio dan Televisi, ou le star du radio de la télévision. Selon lui, la chanson de Kroncong a un niveau de difficulté assez élevé. L'amour et la fierté de la musique de Kroncong ont ensuite été montrés dans une œuvre de l'album intitulé Kroncong in Lung. L'album est sorti en 2009, contenant 10 anciennes chansons mixtes de l'Indo occidental ainsi que celles actuelles. Avec le rythme de Chong Rock, ou le Kroncong avec le rock, et le Chong Dut, le Kroncong avec le dangdut. La musique de Kroncong qui se joue agréablement et harmonieusement avec les arrangements internationaux et l'Indonésie est une forme de sa dédicace pour préserver la musique de Kroncong afin que la jeune génération d'aujourd'hui l'aime toujours. Chers amis, ensuite, écoutons deux chansons intitulées Ariati et Rangkaian Melati. Les deux chansons terminent notre rencontre d'aujourd'hui. Bonne écoute et à la prochaine!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.